tranche de vie, une émission proposée par JF. Auditeurs de tranches de vie. Vers 1960, les camions qui circulaient en France s'appelaient berliers et uniques. Il fallait de gros bras pour tourner leur volant. À bord, la climatisation et la téléphonie mobile étaient des luxes inconnus. Les routes n'étaient pas toujours adaptées à une circulation plus lente et pourtant moins sûre. En ce temps-là, les camions immatriculés en France étaient presque les seuls à circuler sur les routes de l'Hexagone. Depuis, en quelques décennies, le transport routier a connu un développement extraordinaire à la faveur de l'amélioration du réseau routier et du matériel. Je remercie Jean-Marie, directeur de l'entreprise de transport périgourdine Classe, et Michel, un de ses chauffeurs, d'avoir accepté l'invitation de RLP pour parler aujourd'hui aux auditeurs de Tranche de Vie du métier dont ils sont les acteurs essentiels. Jean-Marie, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise ?
Oui, bonjour. Écoutez, l'entreprise Classe est une entreprise que j'ai créée en 2006, qui est spécialisée dans la messagerie frigorifique. La messagerie frigorifique étant la distribution de petits colis, en fait. Hein, donc, nous sommes positionnés comme distributeurs sur le département de la Dordogne. Nous assurons donc les derniers kilomètres, d'une prestation transport global. Donc là, c'est une entreprise de 35 personnes aujourd'hui, équipée de 12 à 13 véhicules, qui travaillent principalement sous température dirigée, 24 heures sur 24, du dimanche soir jusqu'au samedi après-midi. C'est une équipe, bien évidemment, de chauffeurs. C'est une équipe également de manutentionnaires caristes qui trient et allotent les colis la nuit et qui organisent les tournées. C'est également un service administratif, du service après-vente et, bien évidemment, un encadrement adéquat.
Pour une entreprise de transport, vous considérez que vous êtes le patron d'une entreprise de transport moyenne ?
D'une petite entreprise de transport. Aujourd'hui, la majorité des structures sont relativement importantes, hein, le regroupement de l'Europe, l'élargissement de l'Europe, hein, qui a bien évidemment pénalisé considérablement la vieille Europe, dirons-nous, dont faisait partie la France, sur l'aspect social et bien évidemment sur l'aspect économique, ce qui a réduit considérablement, le parc routier français. Donc, effectivement, aujourd'hui, le paysage du monde du transport qui se divise en trois catégories, à savoir l'industriel, le lot et la messagerie, aujourd'hui, est représenté par majoritairement des structures importantes. Seul dans des métiers comme le nôtre, on retrouve des PME de notre taille, voire même encore plus petites, avec, des véhicules pour effectuer les dix derniers kilomètres.
Ah bon ? Parce que votre aire de collecte, ça ne dépasse pas un rayon de 10 kilomètres autour de Périgueux ou
non, dans... non, quand non. Je dis les 10 derniers kilomètres, c'est dans le sens où les 10 DITS, derniers kilomètres. Ce qu'on appelle les derniers kilomètres.
Ah, d'accord. Alors, traduisez, s'il vous plaît. Alors, ça veut dire que vous êtes en bout de ligne.
Absolument. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en amont, nous avons des confrères transporteurs qui ramassent les produits, qui les tractionnent et qui s'appuient sur des gens comme nous pour assurer la livraison sur des zones courtes.
Alors, dans lesquels qu'ils ne veulent pas desservir eux-mêmes parce que ils sont spécialisés dans les grands itinéraires.
Oui, tout à fait. Imaginez un instant que j'enlève de la marchandise chez un industriel périgordin et que sa marchandise est à destination de Strasbourg. Soit j'ai les volumes conséquents pour aller sur Strasbourg à mes propres moyens, ce qui va rarement être le cas, soit je confie la marchandise à des confrères qui, petit bout par petit bout, vont m'acheminer la marchandise jusqu'à Strasbourg. Et sur Strasbourg, il va y avoir un confrère transporteur de la même typologie que la mienne qui, lui, va recevoir cette marchandise et fera les derniers kilomètres pour aller livrer le client final.
D'accord. Lui, il va, par exemple, répartir ses marchandises à l'intérieur du Bas-Rhin, par exemple.
Absolument. Absolument. Et c'est cette massification-là qui fait qu'aujourd'hui, on peut maintenir des coûts relativement intéressants, même si on dit toujours qu'aujourd'hui, les coûts de transport restent trop onéreux en France, malgré tout.
Oui, mais alors, moi, je vais vous poser quand même une question. À partir du moment où il y a des ruptures de charges comme ça, ça n'augmente pas les frais ?
Écoutez, effectivement, on pourrait s'imaginer que des passages à quai sont onéreux. Maintenant, aujourd'hui, le travail il est fait en amont, c'est-à-dire que les transporteurs que nous sommes, nous optimisons au mieux l'unité palette, hein, qui est notre support de manutention, afin de ne pas créer ou générer de la manutention supplémentaire, ce qui veut dire qu'une palette déposée sur une plateforme quelconque devient une palette de transit et non de tri ou de reconditionnement comme ça il peut se pratiquer. Alors bien évidemment, ça, malgré tout, il faut décharger les camions, il faut malgré tout les recharger, mais cela permet de massifier les liaisons d'un point A à un point B, d'un point B à un point C.
C'est-à-dire que vous avez un chargement, vous pouvez réaliser des chargements plus complets pour faire votre répartition que ce serait le cas si vous aviez à transporter cette marchandise sur de grandes distances.
Bien évidemment, c'est vrai qu'aujourd'hui si l'entreprise de classe remet de la fraise, de la viande de veau ou autre spécialité produite dans le département sur un confrère transporteur basé à Lyon et que lui-même, ce même transporteur, reçoit du melon de Cavaillon et des tomates de Marmande, vous voyez, il aura déjà une complémentarité supplémentaire qui lui permettra d'accéder et de pousser son véhicule sur plusieurs dizaines de kilomètres et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on traverse la France aujourd'hui, de nos jours. C'est à peu près, j'aurais tendance à dire aujourd'hui, vous avez à peu près 150 plateformes de transit à peu près en France dans l'agroalimentaire, dans notre corps de métier. Et c'est sur ce type de trafic qu'on est en capacité de transporter un produit d'un point A à un point B, de traverser quasiment la France en 24 heures grâce à ce type de fonctionnement. Quoi.
Alors ça implique ce que je disais dans mon introduction, savoir que la mise en place d'une logistique qui probablement était moins sophistiquée il y a 50 ans.
Clairement, parce qu'il y a 50 ans, les schémas de consommation n'étaient pas du tout les mêmes. La grande distribution existait à peine, tout juste. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on était sur des schémas beaucoup plus archaïques, avec beaucoup moins d'exigences aussi de la part du client final. Aujourd'hui, dans l'agroalimentaire, je pense qu'autour de 80% des volumes sont commercialisés par la grande distribution. Ce qui nous oblige à être présents dans tous les hyper, super ou supérettes de la grande distribution partout en France tous les jours, tous les matins. Donc, ce qui veut dire qu'avec des coefficients de remplissage plus ou moins intéressants d'ailleurs, mais on a habitué à ce mode de consommation, enfin de commercialisation, on les a trop bien habitués même à les livrer tous les jours dans des horaires convenables afin qu'ils puissent installer leur linéaire au profit des clients qui, dès le matin 8h, peuvent acheter leurs produits. Quoi.
Et puis du côté de la grande distribution, on a vu apparaître aussi des stratégies d'approvisionnement, en particulier le flux tendu, qui font que vous êtes obligé de vous adapter aussi à ça.
Ben complètement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben les stocks sont dans les camions, hein, puisque personne ne veut le financer. Pas plus l'industriel que la grande distribution. Donc aujourd'hui, effectivement, on peut considérer que nous sommes plus qu'en flux tendu. Quand aujourd'hui, vous ramassez de la marchandise sur 8h ou 9h du matin sur Périgueux pour être en capacité de le livrer à 5h du matin dans une ancienne quelconque sur Strasbourg, par exemple, Nice ou Lille ou Brest, imaginez-vous bien qu'on est sur des horaires relativement stricts et sur une logistique plus que pointue pour que les colis, après l'échange entre 2-3 prestataires ou professionnels, arrivent dans des bonnes conditions. Quoi.
Alors, malgré tout, l'évolution des techniques, en particulier informatique, ça a quand même dû vous simplifier considérablement la vie, au moins depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années.
Oui, clairement, aujourd'hui, je pense que sans l'outil informatique, on serait pas du tout en capacité de faire tout ce qu'on fait. Bien évidemment, je crois qu'aujourd'hui, les échanges de données informatiques, aussi bien de la grande distribution vers l'industriel que de l'industriel vers la profession de transport, aujourd'hui, facilitent considérablement les échanges. Et c'est un gain de temps et c'est aussi, je dirais, une sécurité supplémentaire pour l'ensemble des acteurs, afin d'éviter tout simplement aussi les erreurs qui pourraient susciter des mécontentements.
Mais vous êtes un spécialiste de matériaux, de denrées qui sont transportées dans une température que vous avez appelée contrôlée, non, vous avez
employé
le mot dirigée. Alors, ça veut dire que... Et puis vous avez des camions qui sont des camions frigorifiques. Donc ce qui implique pour vous quand même des contraintes supplémentaires, parce que vous avez des entrepôts. Comment vous fonctionnez?
Oui, nous avons pas loin de 3000 mètres cubes sous température dirigée, entre 0 et 4 degrés, où nous effectuons tous nos passages à quai, c'est-à-dire nos déchargements et rechargements, avec des portes spécifiques adaptées de façon à ce qu'il n'y ait pas de perdition de froid entre le véhicule et la plateforme. Tous nos véhicules sont équipés, bien évidemment, de groupes réfrigérants, avec des parois qui peuvent séparer les différentes températures dans un même véhicule. Donc on peut très bien faire des produits surgelés ou congelés entre moins 15 et moins 25. Sur une partie du véhicule, et on peut de la même façon faire du produit entre 0 plus 4 pour la majorité des produits, plus 7 en fonction des légumes ou des fruits un peu plus sensibles. Donc effectivement, on est en capacité de réguler les températures de nos véhicules en fonction du produit qu'on met à l'intérieur.
Alors, cette activité, ça veut dire que vous avez une activité qui a une dimension saisonnière? Je veux dire, pour certains produits, par exemple?
Alors, pour certains, oui, j'aurais tendance à dire pour certains produits, et notamment les fruits et légumes, qui nécessitent pour certains d'entre eux une température un peu plus légère que d'autres. Mais sinon, la majorité des produits se situe entre 0 et 4 degrés. Quoi.
Mais ce que je veux dire, c'est en quantité. Vous allez transporter, par exemple, moins de fruits et légumes en hiver qu'en été?
Alors aujourd'hui, avec la mondialisation...
Bien sûr, si les fraises arrivent du Pérou, vous serez obligé de les transporter.
Voilà, on est à peu près en capacité toute l'année de transporter à peu près toutes sortes de produits. Et c'est vrai que la saisonnalité, bien évidemment, impacte pas mal aussi nos trafics, mais je dirais, de toute façon, ils sont compensés de règle générale par d'autres produits. Donc je dirais, naturellement, on aurait tendance à maintenir des volumes, parce que malgré tout, vous mangez tout aussi bien du 1er janvier qu'au 31 décembre. Donc, comme nous transportons que de l'agroalimentaire, en fait, notre métier,
c'est pratiquement un volume constant. Alors.
C'est un volume constant, oui, quasiment du 1er janvier au 31 décembre. On connaît les périodes les plus calmes, quand on vient juste de passer, hein, le mois de janvier, février, mars, n'étant pas des périodes les plus intéressantes dans notre profession. Mais là, on arrive au beau jour. On a la chance d'être en Périgord et d'être dans un département très visité, ce qui nous permet d'avoir des volumes supplémentaires de l'ordre de 10, 15, voire même de temps en temps 20% de plus sur la période estivale. Et ensuite, nous arrivons sur la fin d'année et on sait qu'en France, en fin d'année, les volumes sont plutôt intéressants parce que nous sommes tous quand même relativement des...
D'accord, là vous avez des pics au moment des fêtes, et en particulier au moment des fêtes de fin d'année, bien sûr. Quelles sont les difficultés que rencontre le directeur d'une entreprise de transport, que ce soit avec l'entretien du matériel, que ce soit avec le recrutement des chauffeurs. Expliquez-nous un peu tout ça.
Bah écoutez, la première difficulté, je dirais, c'est essayer de dormir sur ces deux oreilles. Je m'entends par cette expression sur le fait que, ben voilà, tous les jours, on est une profession à risque, voilà, tout simplement. Donc c'est vrai que
souci permanent.
Mais à partir du moment où vous savez que vos chauffeurs roulent, ben vous espérez qu'une chose, c'est que tout se passe bien pour sa sécurité, bien évidemment, et celle des autres. Ça, c'est le premier point. Donc ça, je crois que c'est... Alors après, je ne vous cache pas qu'au fil des mois d'expérience et au fil des années, bien évidemment, on est en capacité d'évacuer ce genre de soucis-là. Sauf que tous les jours, ben, vous êtes contraint de faire en sorte de contrôler, de vérifier qu'on soit en respect avec les législations, de vérifier que nos hommes soient en capacité d'accomplir les missions par rapport au repos nécessaire, par rapport aux exigences de nos clients, etc. Donc je dirais, une des premières difficultés, j'aurais tendance à dire que c'est celle-ci. Après, je dirais, bien évidemment, trouver des chauffeurs spécialisés dans la messagerie frigorifique de surcroît, on commence à chercher des perles rares. Donc ça passe par des formations qu'on effectue en interne, parce que malheureusement...
Est-ce qu'il y a des formations qui sont justement destinées à former des chauffeurs pour le travail de la messagerie, pour un travail de messagerie? Ou est-ce que on se contente simplement d'avoir des chauffeurs qui sont capables de conduire un camion, de le garer dans un petit espace, etc.?
Oui, on est plutôt sur votre seconde réflexion. Aujourd'hui, on est en capacité de former des chauffeurs, voilà, avec les obligations, je dirais, de base, qui sont bien au-delà du respect de la législation, bien sûr, et mais qui se traduisent par le respect de la documentation, et j'en passe. Mais c'est vrai que dès qu'on veut commencer à mener une valeur ajoutée autour de ce poste, malheureusement, je pense que les meilleures formations se font à l'intérieur des entreprises, quoi,
sur le tas.
Donc après, c'est toujours très difficile, bien évidemment, d'accompagner. Ça a un coût, bien évidemment. Mais ça me paraît être une condition sine qua non si on veut espérer mettre en place une prestation de qualité, quoi. Donc c'est quasi incontournable. Alors nous, en interne, eh bien, on accompagne régulièrement les chauffeurs sur les premières journées. Soit il participe, il est conducteur, soit il est l'observateur. Et de règle générale, on a entre une à deux semaines de formation systématique à chaque fois qu'un nouveau chauffeur est entrant dans notre entreprise, pour lui expliquer un peu toutes les spécificités du métier, les réglages des températures, le calage des produits au sein du véhicule, etc. etc. quoi. Et le traitement administratif, bien évidemment, qui va avec. Et bien évidemment, tout en maintenant le respect de la route, bien évidemment, et social, bien sûr, aussi, parce que on peut pas imaginer, d'avoir des accidents et des tiers sous prétexte qu'on n'a pas su, nous, en amont, organiser son temps de travail.
Donc c'est quand même un stress pour vous qui est multiforme. Je retiens un petit peu ça quand même.
C'est ça, oui, c'est ça. Mais
est-ce que vous arrivez à recruter des jeunes quand même et à les former? Est-ce qu'il y a des jeunes qui sont encore attirés par le transport routier, c'est-à-dire par toute la mythologie de la conduite, etc., de conduire des gros bahuts?
Ça fait de moins en moins rêver, quoi. Hein. Je vois sur le département de la Dordogne, je crois que on recense 14 000 demandeurs d'emploi. Je vous cache pas que pour trouver des chauffeurs, c'est très très compliqué. Donc vous voyez, c'est une profession qui est un peu désertée. Les raisons, sans doute qu'il y en a. C'est vrai qu'il y a quelques 2-3 décennies de cela, ce métier-là, il n'était pas du tout reconnu. Donc forcément, ça n'a pas incité les jeunes à s'y mettre, bien évidemment. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, le routier qui espère traverser l'Europe... et vivre dans sa cabine pendant 3-4 journées.
Là, on passe à un autre secteur que le vôtre. Hein,
absolument, ouais. Mais je veux dire, même ce métier-là aujourd'hui, il est de plus en plus, concurrentiel, déjà, d'une part, et d'autre part, la société a évolué. Aujourd'hui, je suis pas sûr que ça suscite de grandes vocations chez les jeunes de vouloir partir 2 jours, 3 jours. Je crois que non. Je crois qu'après c'est tout simplement le fait de d'être hors domicile, quoi. Aujourd'hui, forcément, c'est quand vous voulez construire une vie, c'est compliqué, de se séparer de sa conjointe, ses enfants.
Alors Michel, qui est un chauffeur de l'entreprise Classe, va nous parler de sa vie de chauffeur routier de cette entreprise dont le patron, Jean-Marie, nous a dit tout à l'heure, nous a expliqué tout à l'heure comment elle fonctionnait. Michel, bonjour. Merci de répondre à quelques questions pour compléter ce que nous a dit votre patron. Alors, vous êtes chauffeur de l'entreprise Classe depuis combien de temps ?
10 ans. 10 ans.
10 ans. Et auparavant, vous étiez déjà chauffeur, votre carrière de chauffeur, elle dure depuis combien de temps à peu
près ? Depuis 1987.
87.
Oui.
Ouh là là. Alors vous êtes un ancien déjà de la profession. Oui. Alors, est-ce que ayant commencé en 87, vous avez vu des changements ? Quels sont les changements les plus importants que vous avez vus dans la profession ? À la fois dans le matériel et puis dans la manière dont la profession est exercée. Bien entendu, vous avez peut-être fait du transport qui était différent du transport de messagerie que vous faites maintenant. Mais malgré tout, est-ce qu'il y a eu une évolution vraiment marquante du matériel puis des conditions de travail ?
Ben oui, déjà les transpalettes électriques. Avant, on tirait les palettes à la main. Le confort des camions. Et quoi dire d'autre ? Oui, ça s'est amélioré. Ouais. Et on fait beaucoup moins d'heures.
Ah bon ?
Ben oui.
Et pourquoi ? Parce que c'est la réglementation qui le veut ?
Oui, c'est la réglementation oui, qui veut ça maintenant. On est limité en temps, en tout, quoi.
Quand vous parlez de confort des camions, ça se matérialise comment ? Qu'est-ce qui est devenu plus confortable ?
Ben déjà, les camions sont sur coussin d'air, au lieu d'être sur lame. Et dans la cabine, le siège aussi, sur coussin d'air, réglable au poids du chauffeur. C'est confortable.
Il y a eu des changements dans la direction. C'est plus démultiplié. C'est plus facile à conduire la direction.
Ah oui, les directions sont assistées. Il y a tout quoi. Les vitesses sont automatiques maintenant. Plus d'embrayage. Oui, il y a une grosse différence entre il y a 20 ans et maintenant.
Il y a 20 ans, vous utilisiez quel type de camion ? Quelle marque de camion vous utilisiez ?
Un peu toutes les marques. Ouais. Ils étaient tous pareils. Et c'était TAPQ et la direction, il fallait avoir des gros bras.
Ah, encore il y a 20 ans.
Il y a 20 ans, oui.
Oui, oui. Bon. Et alors, vous arrivez à concilier votre vie de transporteur, de chauffeur routier et une vie familiale ?
Ben oui, avec ma femme, on se croise. Et c'est peut-être pour ça que je suis avec elle depuis 40 ans.
Ah, ça, c'est une très bonne, réponse. Bon, je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs, avant qu'on se quitte, si vous avez quand même le temps d'exercer d'autres passions que votre métier ?
Oui, je fais de la moto déjà, pas mal. Et puis après, des balades avec ma femme, on a le temps, oui. Les week-ends.
D'accord. La moto, vous êtes un motard chevronné, ancien aussi ?
Oui, la moto, oui. Pas mal de temps que j'en fais, oui. C'est mon véhicule.
Très bien. Merci beaucoup, Michel. Maintenant, je voudrais vous demander, avant que nous nous quittions, de nous dire si vous arrivez quand même, malgré votre travail prenant, stressant, à avoir et à exercer d'autres passions. Et quelles sont vos passions ? Ou vos passe-temps, ou vos hobbies.
Oui, mais heureusement qu'on arrive à sortir un peu de l'entreprise, même si effectivement c'est toujours très compliqué. Oui, quelques passions. Mais écoutez, oui, j'aime beaucoup le sport en général. Je suis un ancien rugbyman, donc assez passionné par cette discipline, investi également en tant que partenaire sur bon nombre de sports, le rugby, le basket, sur l'aspect culturel également à travers l'association MNOP, la musique de la Nouvelle-Orléans Périgord. La musique, le sport, les voyages, bien sûr, Donc j'ai la chance de pouvoir faire pas mal de choses. Et...
Là, ça fait déjà pas mal de choses. Alors les voyages, quel est le dernier voyage ?
Écoutez, là, je rentre des États-Unis. Là, vous voyez, donc j'étais il y a 15 jours de cela sur l'Amérique du Nord.
Quelle partie des États-Unis ?
Mais écoutez, on a fait New York déjà, et puis on a fait la Nouvelle-Angleterre. On a fait un petit bout de trajet sur le Canada, Montréal, Toronto, avant de revenir passer quelques jours supplémentaires encore sur New York.
Voilà. C'était votre premier séjour à New York ?
C'était mon premier séjour à New York. Ça n'était pas au niveau des États-Unis, mais ça l'était en tout cas à New York.
Et ça vous a plu ?
Oui, c'est une ville très, très envoûtante, quoi. C'est vraiment très, très sympa. C'est une somme toute une ville très, très paisible, très bien organisée.
Là, vous n'avez pas pu avoir un aperçu de la circulation des camions sur les grands les autoroutes américaines et les gros Mac, là, qui faisaient mon admiration, moi, quand j'étais aux États-Unis dans les années 70.
Alors, on en a croisé quelques-uns, bien évidemment, quand on s'est promené un petit peu en Nouvelle-Angleterre, forcément, sur les autoroutes, on trouve encore quelques modèles que vous avez peut-être pu rencontrer, mais ils sont de moins en moins nombreux. Forcément, ils sont un peu plus modernes aujourd'hui, mais un peu moins esthétiques, dirons-nous. Mais c'est vrai que ça reste des véhicules complètement démesurés par rapport aux nôtres. Et qui sont magnifiques. Hein. Je n'ai cessé d'en prendre en photo d'ailleurs à plusieurs reprises partout où je m'arrêtais. Mais oui, bien sûr, ils existent toujours. Hein. Je crois que ça fait un peu aussi partie du charme américain. Mais voilà, dans un beau séjour.
Tout est plus grand.
Oui. Tout est plus grand. Oui, il y a cette notion de dimension qui est assez impressionnante pour des Européens, quoi. Hein. Donc c'est vrai que. Ça reste un pays facile à visiter, avec un peuple relativement ouvert et sympathique.
Malgré tout, heureux de retrouver le Périgord.
Toujours.
Vous êtes un Périgordin pur sucre.
Oui, je suis originaire du Sarladais, donc toujours très heureux de revenir. Toujours très heureux de partir, mais toujours très heureux de revenir, parce qu'on a le privilège de vivre dans une très très belle région. Et je crois qu'effectivement, je ne suis pas convaincu encore, je n'ai pas encore forcément trouvé, dans un des endroits de ce monde, un lieu qui m'intéresserait plus que celui que Périgueux ou le Périgord noir en tout cas.
Eh bien, sur ces bonnes paroles là qui vont faire chaud au cœur des auditeurs de notre radio locale, Radio Libre en Périgord, je remercie beaucoup Jean-Marie de nous avoir parlé avec passion de son beau métier.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.